Vie et aventure de Nicholas Nickleby. Chapitre 3. Monsieur Ralph Nickleby reçoit de mauvaises nouvelles de son frère, mais il soutient noblement cette épreuve. Le lecteur y verra le goût qu'il prit pour Nicolas, qui fait ici sa première apparition, et la bienveillance avec laquelle il lui proposa de faire tout de suite sa fortune. Après avoir expédié scrupuleusement la partie de ses fonctions qui consistait dans la collation avec toute la promptitude et l'énergie qui caractérise l'homme véritablement fait pour les affaires, Monsieur Ralph Nickleby dit un adieu cordial à ses associés et tourna ses pas vers l'ouest de la ville dans une disposition de bonne humeur inaccoutumée. En passant devant Saint-Paul, il se retira sous une porte pour mettre sa montre à l'heure et, la main sur la clé, l'œil sur le cadran de la cathédrale, il allait tourner l'aiguille quand un homme s'arrêta tout à coup devant lui. C'était Newman Nodge.
« Ah, Newman !» dit Monsieur Nickleby, les yeux relevés sur l'horloge. « La lettre pour l'hypothèque est venue, n'est-ce pas ?»«
Je m'en doutais. »«
Erreur !» reprit Newman.
« Comment ? Et vous n'avez vu personne concernant cette affaire ?»
demanda Monsieur Nickleby avec inquiétude. Nodge secoua la tête.
« Alors, qu'est-ce qui est venu ?» poursuivit Monsieur Nickleby.
« Moi ?»
dit Newman.
« Rien de plus ?»
En disant cela, le visage du patron se rembrunit.
« Ceci !» dit Newman,
tirant doucement de sa poche une lettre timbrée à la poste. Strand, cachetée en noir, bordée de noir, une main de femme, C.N. dans un coin.
« Un cachet noir !»
dit Monsieur Nickleby en jetant un coup d'œil sur la lettre.
« Il me semble que cette écriture ne m'est pas tout à fait inconnue. »
« Newman, je ne serais pas surpris que mon frère fût mort. »«
Certainement non, vous ne le seriez pas, »
dit Newman tranquillement.
« Et pourquoi cela, monsieur ?»
demanda Monsieur Nickleby.
« Parce que vous n'êtes jamais surpris de rien, » répliqua Newman. « Voilà tout. »
Monsieur Nickleby saisit la lettre des mains de son clerc en fixant sur lui un regard glacial, l'ouvrit, la lut, la mit dans sa poche et, ayant réglé sa montre à une seconde près, il se mit à la monter.
« Je le disais bien, Newman, »
dit Monsieur Nickleby poursuivant son opération.
« Il est mort.
Eh bien !»
Voilà du nouveau, par exemple. Franchement, je n'y attendais pas.
Après ces expressions touchantes de son chagrin subi, Monsieur Nickleby replace sa montre dans son gousset, prend ses gants, les plisse soigneusement sur ses doigts, se remet en route et se dirige à petits pas vers l'ouest de la ville, les mains derrière le dos.
« Des enfants ?»
demanda Nodge en se rapprochant de son maître.
« Parbleu, c'est bien là le hic !»
reprit Monsieur Nickleby comme s'il avait justement l'esprit occupé d'eux en ce moment.
« Ils sont bien vivants tous les deux !»«
Deux ?»
répéta Newman Nodge à voix basse.
« Et la veuve donc ?» ajouta Monsieur Nickleby. « Ils sont tous les trois à Londres !»
« Dieu me pardonne, tous les trois ici, Newman !»
Newman laissa son maître passer devant, et l'on eût pu voir sa figure se contracter d'une façon singulière, comme l'effet d'un spasme nerveux.
Mais quant à dire si c'était paralysie ou chagrin, ou rire intérieur, il n'y avait que lui qui pût le savoir. En général, l'expression des traits est un grand secours pour deviner la pensée d'un homme ou pour traduire fidèlement ses paroles. Mais la physionomie ordinaire de Newman Nodge était un problème qui défiait l'interprète le plus ingénieux.
« Retournez à la maison, » dit Monsieur Nickleby après avoir fait encore quelques pas.
Et il fit les gros yeux à son clerc comme s'il grondait un chien. Newman, n'attendant pas son reste, et le voilà parti au travers de la rue, perdu dans la foule, et disparu en un instant.
« C'est bien raisonnable, certainement, oui, » se disait en marmonnant entre ses dents Monsieur Nickleby. « Voyez comme c'est raisonnable. Mon frère n'a jamais rien fait pour moi et je n'ai jamais compté sur lui. Eh bien, à peine a-t-il rendu le dernier souffle qu'il faut que l'on se tourne vers moi comme le soutien d'une grande diablesse de femme et de ses deux grands coquins d'enfants, le fils et la fille. Qu'est-ce qu'ils me sont, après tout? Je ne les ai jamais vus. »
Tout entier à ses réflexions, et à bien d'autres de même nature, M. Nickleby continua son chemin vers le Strand, et, reprenant sa lettre pour s'assurer du numéro de la maison où il avait affaire, il s'arrêta à une porte bâtarde, à peu près au milieu de ce carrefour populeux. C'était la maison de quelque artiste en miniature, car il y avait un grand cadre doré accroché à la porte dans lequel s'étalaient, sur un fond de velours noir, deux portraits d'uniforme de marine, dont sortaient deux figures sacrifiées en costume. On n'y avait pas oublié les télescopes. Il y avait aussi un jeune homme en uniforme du plus beau vermillon. Celui-là brandissait un sabre. Un autre portrait, dans le style littéraire, était orné d'un front haut, d'une écritoire et d'une plume, avec accompagnement de rideaux. De plus, on y voyait la représentation touchante d'une jeune dame occupée à lire un manuscrit dans une forêt profonde, avec un charmant portrait au pied d'un petit enfant à grosse tête, assis sur un tabouret, les jambes en raccourci et les genoux cagneux en forme de cuillère à sel. Avec ces petits chefs-d'œuvre, il y avait encore je ne sais combien de têtes de vieillards, dames et messieurs, se faisant des mines les uns aux autres sur un ciel bleu ou brun. Enfin, une carte des prix, écrite d'une main élégante et décorée d'une bordure en relief. Monsieur Nickleby jeta en passant un œil de mépris sur ses frivolités et frappa deux coups de marteau. L'expérience répétait une seconde, puis une troisième fois, réussit à faire apparaître une petite bonne qui vint ouvrir la porte avec une figure extraordinairement malpropre.
« Madame Nickleby est-elle à la maison ?» demanda Ralph d'un ton bourru.
« Son nom n'est pas Nickleby, » dit la servante. « C'est la Cravey que vous voulez dire. »
Monsieur Nickleby montra une grande indignation de se voir ainsi rectifié par la chambrière et lui demanda rudement ce que cela signifiait. Elle allait lui en donner l'explication lorsqu'on entendit une voix qui partait du haut d'un escalier perpendiculaire au fond du corridor crier en bas
« Qu'est-ce qu'on demande ?»«
Madame Nickleby, » dit Ralph.
« C'est le second étage, Anna, » dit la même voix. « Que vous êtes donc imbécile ? Le second étage y est-il ?»
Je viens d'en sortir, quelqu'un, mais je pense que c'est la mansarde qui est allée se faire décrotter, répondit Anna.
Vous auriez dû regarder, continua la dame invisible. Montrez à ce monsieur où est la sonnette dans la rue, qu'il ne frappe plus une autre fois deux coups de marteau pour le second étage. Je n'autorise le marteau que lorsque la sonnette est cassée. Et encore, on doit donner que de petits coups secs.
Bon, dit Ralph, entrant sans plus de façon dans le couloir. Je vous demande pardon. Est-ce là, madame, la... comment donc ?
Cravey !
La Cravey ! Reprit la voix, accompagnée cette fois d'une coiffe jaune qui se laissa voir par-dessus la rampe.
Je voudrais vous dire un mot, madame, avec votre permission, dit Ralph.
La voix répondit que le monsieur n'avait qu'à monter, mais c'était déjà fait. Et il fut reçu au premier étage par la propriétaire de la coiffe jaune, avec une robe assortie. La dame aussi paraissait être de la même couleur. Miss La Cravey était une jeune mignonne de 50 ans. Et le salon de Miss La Cravey n'était guère que la répétition, sur une plus large échelle, du cadre doré pendu dans la rue. Seulement, il était un peu plus sale.
« Ah !» dit Miss La Cravey, toussant délicatement derrière sa mitaine de soie noire. « Une miniature, je présume. Vous avez là, monsieur, des traits bien caractérisés. Le portrait ne peut qu'y gagner. Avez-vous déjà posé ?»«
Je vois, madame, que vous vous méprenez sur mes intentions, » répliqua monsieur Nickleby, avec sa brusquerie ordinaire. « Je n'ai pas d'argent à perdre en miniature, madame, ni personne, Dieu merci, à qui donner la mienne si je l'avais. En vous voyant en haut de l'escalier, j'ai voulu seulement vous adresser une question sur quelques locataires que vous avez ici. »
Miss La Cravey toussa de nouveau. Cette fois, c'était pour cracher son désappointement.
« Oh, très bien !» dit-elle.
D'après ce que je vous ai entendu dire tout à l'heure à votre servante, je suppose que l'étage supérieur vous appartient, madame, dit Nickleby.
Madame La Cravey répondit qu'en effet le haut de la maison lui appartenait, et comme elle n'avait pas pour le moment le besoin de l'appartement du second, elle était dans l'habitude de le mettre en location. Il y avait même, à l'heure qu'il est, une dame de province qui l'occupait avec ses deux enfants.
« Une veuve, madame ?» dit Ralph.
« Oui, elle est veuve, » répondit la dame.
« Une pauvre veuve, madame, » dit Ralph en appuyant de toutes ses forces sur ce petit adjectif qui en dit plus qu'il n'est gros.
« Mais... « j'ai peur, en effet, qu'elle ne soit pauvre, » reprit Miss La Cravey.
« Je puis vous garantir qu'elle l'est, madame, » dit Ralph. « Aussi, qu'est-ce qu'une pauvre veuve comme elle aurait besoin d'une maison comme la vôtre, madame ?»«
C'est bien vrai, » répliqua Miss La Cravey, qui n'était pas du tout fâchée d'entendre ce compliment à l'adresse de ses appartements. On ne peut plus vrai.
Je connais mieux que personne sa position, madame, dit Ralph. Au fait, je suis un de ses parents, et je crois devoir vous prévenir de ne pas la garder chez vous, madame.
J'ai lieu d'espérer pourtant que, s'il y avait impossibilité pour elle de remplir ses obligations pécuniaires, dit Miss La Cravey, toussant encore, « la famille de la dame ne manquerait pas. »«
Non, non, elle n'en ferait rien, » interrompit Ralph avec vivacité. « Ne comptez pas là-dessus. »«
Si je croyais cela, » dit Miss La Cravey, « ce serait bien différent. »«
En ce cas, madame, vous pouvez le croire, » dit Ralph, « et vous réglez là-dessus. C'est moi qui suis la famille, madame. » Du moins, je ne pense pas qu'il y ait d'autres parents que moi, et je crois de mon devoir de vous faire savoir que je ne suis pas en état de les soutenir dans leurs folles dépenses. Pour combien de temps ont-ils pris cet appartement ?
À la semaine seulement, répliqua Miss La Creevy.
Madame Nickleby m'a payé la première d'avance.
Alors, vous ferez bien de les mettre dehors au bout de 8 jours, dit Ralph. Ils n'ont rien de mieux à faire que de retourner en province. Ils ne feront qu'embarrasser tout le monde ici.
Certainement, dit Miss La Creevy en se frottant les mains. Si Madame Nickleby a pris l'appartement sans avoir le moyen de le payer, ce ne serait pas là une bonne conduite pour une dame.
C'est cependant comme cela, madame, dit Ralph.
Et naturellement, continua Miss La Creevy, moi qui suis pour le moment une femme sans défense, je ne puis pas risquer de perdre mon loyer.
Vous avez bien raison, madame, dit Ralph.
Cependant, je dois dire en même temps, ajouta Miss La Creevy, qui hésitait naïvement entre son bon cœur et son intérêt, que je n'ai pas le moindre reproche à faire à cette dame. Elle est extrêmement affable et gracieuse. La pauvre femme, malgré l'accablement où elle paraît, je n'ai rien à dire non plus contre ses enfants. On ne peut pas voir un jeune homme et une jeune demoiselle plus aimable ni mieux élevée.
Très bien, madame, dit Ralph en prenant le chemin de la porte, car ses éloges donnés à la misère ne faisaient que l'agacer. J'ai fait mon devoir, et peut-être plus que je ne devais. Je sais bien que personne ne me saura gré de ce que je viens de vous dire.
Soyez sûr, monsieur, que du moins je vous en suis très obligée, dit Miss La Creevy d'un ton gracieux. Voulez-vous me faire l'honneur de regarder quelques échantillons de mes portraits ?
Vous êtes trop bonne, madame, dit Monsieur Nickleby, pressé de sortir. Mais comme j'ai encore à faire visite là-haut et que mon temps est précieux, je ne puis vraiment pas.
Quelques jours que vous passerez par ici, je serai très heureuse si, dit Miss La Creevy. Mais voulez-vous être assez bon pour emporter une carte de mépris ? Merci, bonjour.
Bonjour, madame, dit Ralph, en se hâtant de fermer la porte derrière lui pour couper court à la conversation. À présent, à ma belle-sœur. Bah !
Il grimpe donc un autre étage sur le même escalier perpendiculaire, vrai chef-d'œuvre de mécanique, uniquement composé de marches angulaires. Il s'arrête pour reprendre haleine sur le palier où il avait déjà devancé la servante, car Miss La Creevy avait eu la politesse de l'envoyer annoncer monsieur. Et nous lui devons cette justice que, depuis sa première entrevue avec lui, elle avait fait une infinité d'essais plus ou moins heureux pour nettoyer sa sale figure en l'essuyant sur un tablier plus sale encore.
« Quel nom ?» fit la dame. « Nickleby, » répliqua Ralph. « Hé, Madame Nickleby !» dit-elle en ouvrant la porte toute grande. « Voici Monsieur Nickleby !»
Une dame, en grand deuil, se leva pour recevoir Monsieur Ralph Nickleby, mais elle se sentit incapable de faire un pas vers lui et s'asseya sur le bras d'une jeune fille délicate, mais d'une rare beauté, qui venait de prendre place près d'elle et qui pouvait avoir 17 ans. Un jeune homme, qui paraissait plus âgé qu'elle, d'un an ou deux, s'avança vers Ralph, qu'il salua du nom de « mon oncle ».«
Oh !» grommela Ralph d'un air renfrogné. « C'est vous qui êtes Nicolas, je suppose. »«
C'est mon nom, monsieur, » répliqua le jeune homme.
« Tenez, prenez mon chapeau, » dit Ralph d'un ton impérieux. « Eh bien, madame, comment allez-vous ? Il faut surmonter votre chagrin, madame. Il faut faire comme moi. »
« La perte que j'ai faite n'est pas une perte ordinaire, » dit Madame Nickleby en portant son mouchoir à ses yeux.
« C'est une perte, madame, qui n'a rien d'extraordinaire, » reprit-il en boutonnant froidement son Spencer. « Il meurt des maris tous les jours, madame. » Et des femmes aussi.
Et des frères aussi, monsieur, dit Nicolas avec un coup d'œil indigné.
Oui, monsieur, et des petits chiens aussi, et des roquets, répliqua son oncle en prenant une chaise.
Vous ne m'avez pas dit, madame, dans votre lettre, ce qu'avait eu mon frère.
Les docteurs n'ont pas donné à sa maladie de nom particulier, dit madame Nickleby, fondant en larmes. Nous n'avons que trop de raisons de croire qu'il est mort le cœur brisé.
Peu, dit Ralph. Je ne connais pas de maladie de ce nom-là. Je comprends qu'un homme meure pour s'être brisé le cou, qu'il se brise un bras et qu'il en souffre. On peut se briser la tête, se briser une jambe, se briser le nez. Mais un cœur brisé, cela ne veut rien dire. C'est l'argot du temps. Quand un homme ne peut pas payer ses dettes, il meurt le cœur brisé et sa veuve devient un martyr.
En tout cas, dit tranquillement Nicolas, il me semble qu'il y a des gens qui n'ont pas de cœur à briser.
Tiens, quel âge a ce garçon ?
Demanda Ralph en se retournant avec sa chaise et toisant son neveu des pieds à la tête avec un souverain mépris.
Nicolas va avoir 19 ans, répliqua la veuve.
19 ? Eh ! Dit Ralph. Et comment comptez-vous gagner votre pain, monsieur ?
Sans vivre aux dépens du revenu de ma mère, répliqua Nicolas le cœur gros.
Vous ne vivriez toujours pas aux dépens de grand-chose, répliqua l'oncle avec un coup d'œil de dédain.
Si petit qu'il soit, dit Nicolas rouge de colère, ce n'est pas à vous que je m'adresserai pour l'augmenter. Nicolas, mon cher, maîtrisez-vous, dit madame Nickleby avec inquiétude.
Mon cher Nicolas, je t'en prie, disait la jeune fille avec tendresse.
Vous ferez mieux de vous taire, monsieur, dit Ralph. Par ma foi, voilà un beau début, madame Nickleby, un beau début.
Madame Nickleby, sans répliquer, fit un geste suppliant à Nicolas pour qu'il se tînt tranquille. Et l'oncle et le neveu se dévisagèrent l'un l'autre pendant quelques secondes sans dire un mot. La figure du vieux était sombre, ses traits durs et repoussants. La physionomie du jeune homme était ouverte, belle et généreuse. Les yeux du vieux pétillaient d'avarice et d'astuce. Ceux du jeune homme brillaient de l'éclat d'une ardeur vive et intelligente.
Toute sa personne était un peu délicate, mais virile et bien prise, et sans parler de sa beauté pleine de grâce que donne la jeunesse. Il y avait, dans son port et dans son regard, une étincelle du feu qui animait son jeune cœur et qui tenait en respect le vieux rusé. Combien un tel contraste, tout saisissant qu'il peut être pour ceux qui en sont témoins, est-il plus saisissant encore pour celui des deux adversaires qui se sent atteint et frappé dans son infériorité? C'est un trait aigu qui lui perce et lui pénètre l'âme. Ralph le sentit descendre au fond de son cœur. Sa haine pour Nicolas data de ce moment décisif. Ce regard fixe et provoquant ne pouvait pas durer longtemps. Ce fut Ralph qui céda. Il détourna les yeux avec un dédain affecté, en appelant Nicolas un mioche. C'est un mot de reproche dont les hommes plus âgés font quelquefois usage avec la jeunesse. Peut-être veulent-ils par là faire croire à la société, qui ne s'y trompe pas, que, s'ils pouvaient redevenir jeunes, ils en seraient bien fâchés.
« Eh bien, madame, dit Ralph avec impatience, les créanciers ont tout saisi, m'avez-vous dit, et il ne vous reste rien du tout ?»«
Rien, répliqua madame Nickleby. et vous avez dépensé le peu d'argent que vous aviez pour venir voir à Londres ce que je pouvais faire pour vous. »
J'espérais, dit Madame Nickleby d'une voix défaillante, que vous seriez à même de faire quelque chose pour les enfants de votre frère. J'obéissais aux vœux qu'il m'avait exprimés à son lit de mort, en venant faire appel à la bonté de votre cœur en leur faveur.
Je ne sais comment cela se fait, murmura Ralph en se promenant de long en large dans la chambre. Mais toutes les fois qu'un homme meurt sans laisser de bien, il croit toujours avoir le droit de disposer de celui des autres.
À quoi votre fille est-elle bonne, madame ?
Catherine a été bien élevée, dit avec un soupir Madame Nickleby. Dites à votre oncle, mon enfant, jusqu'où vous êtes allé dans le français ou les arts d'agrément.
La pauvre fille allait hasarder quelques mots, mais son oncle lui coupa la parole sans cérémonie.
Il faut que nous essayions de vous mettre en apprentissage dans quelque institution, dit-il. Vous n'avez pas été élevée, j'espère, trop délicatement pour cela.
Non, certainement, mon oncle, répéta la jeune fille en pleurant. Je suis résolue à faire tout ce qui peut me procurer un abri et du pain.
C'est bon, dit Ralph un peu radouci, soit par la beauté de sa nièce, soit par la pitié pour son malheur. Pensez l'un et dites l'autre. Vous en essayerez, et si l'épreuve est trop rude pour vous, peut-être supporterez-vous mieux les travaux du tambour et de l'aiguille.
Puis, se tournant du côté de son neveu,
« Et vous, monsieur, avez-vous jamais fait quelque chose ?»«
Non, »
répondit brusquement Nicolas.
« Non ? J'en étais sûr, » dit Ralph. « C'est donc comme cela que mon frère élève ses enfants, madame ?»
Il n'y a pas longtemps que Nicolas a achevé l'éducation qu'a pour lui donné son pauvre père qui songeait à...
« À faire de lui quelque jour quelque chose, » dit Ralph. « Je connais cela. C'est une vieille histoire. On songe toujours, on ne fait jamais. Si mon frère avait été un homme actif et prudent, il vous aurait laissé riche, madame. Et s'il avait lancé son fils dans le monde, comme mon père l'a fait avec moi, quoique je fusse plus jeune que ce garçon-là, au moins de 18 mois, il se trouverait aujourd'hui en position de vous aider. » Au lieu de vous être à charge et d'ajouter à votre embarras. Mon frère, Madame Nickleby, a toujours été un homme imprévoyant, irréfléchi, et personne, j'en suis sûr, n'a de meilleure raison de le savoir que vous.
Cet appel insidieux donna à la veuve la tentation de croire qu'elle aurait peut-être, en effet, pu faire un placement plus avantageux de ses 25 000 francs de dot. Et elle ne put s'empêcher de réfléchir combien, en ce moment, une somme si considérable aurait été précieuse. Ces réflexions douloureuses précipitèrent encore ses larmes, et sous l'empire de son chagrin, cette femme, qui n'était pas méchante, elle n'était que faible après tout, se mit d'abord à gémir sur son triste sort, puis à remarquer avec soupir qu'assurément, elle avait toujours été l'esclave du pauvre Nicolas. Qu'elle lui avait souvent dit qu'elle aurait pu faire un mariage plus avantageux. On l'avait demandé tant de fois. Qu'elle n'avait jamais su du vivant de son mari où allait l'argent, mais que, s'il avait eu plus de confiance en elle, ils en seraient tous plus à leur aise aujourd'hui. Elle ne fit pas faute d'ajouter bien d'autres récriminations encore familières à la plupart des dames, soit en puissance de mari, soit après leur veuvage, et peut-être en tout temps. Madame Nickleby termina en déplorant que ce cher défunt n'eût jamais daigné profiter de ses avis, excepté en une occasion unique. Hélas, c'était l'exacte vérité. Il ne l'avait fait qu'une fois, et cette fois-là, il s'était ruiné. Monsieur Ralph Nickleby entendait tout cela avec un demi-sourire. Et quand la veuve eut fini, il reprit tranquillement la question au point où elle était avant l'explosion rétrospective de sa belle-sœur.
« Êtes-vous dans l'intention de travailler, « Monsieur ?» demanda-t-il à son neveu en fronçant le sourcil.
« Comment ne l'aurais-je pas ?» répliqua Nicolas avec fureur.
« Alors, voyez, monsieur, » dit l'oncle. « Voici un avis qui a frappé mes yeux ce matin et dont vous devez remercier votre étoile. »
Après cette exhorte, M. Ralph Nickleby tira de sa poche un journal, le déplia et, après avoir cherché quelques moments dans les annonces, lut cet avertissement.
« Éducation. Académie de M. Wackford Squares. » À Dotboys Hall, dans le délicieux village de Dotboys, près de Greta Bridge, en Yorkshire. Les jeunes gens sont nourris, vêtus, fournis de livres de classe et d'argent de poche, pourvus de toutes les choses nécessaires, instruits dans toutes les langues anciennes et modernes, les mathématiques, l'orthographe, la géométrie, l'astronomie, la trigonométrie, la sphère, l'algèbre, la panne, si on le demande, l'écriture, l'arithmétique, les fortifications et toutes les autres branches de littérature classique. Conditions, 2 points. 20 guinées, 520 francs. Pas de mémoire, pas de vacances, régime de nourriture incomparable. Monsieur Squeers est en ville et se tient tous les jours d'une heure à quatre à la tête de Sarrasin, Snowhist, N.B. On demande aussi un sous-maître capable, traitement annuel, 125 francs. On prendrait, de préférence, un maître S.R.
Voilà, dit Ralph, reployant son journal. Qu'il obtienne cette position et sa fortune est faite.
Mais il n'est pas maître S.R. dit Madame Nickleby.
Pour cela, répliqua Ralph, pour cela, je pense qu'on passera par là-dessus.
Mais le traitement est si peu de choses et c'est si loin, mon oncle, dit Catherine d'une voix émue.
Laissez, ma chère Catherine, laissez dire votre oncle, dit Madame Nickleby. Il sait mieux que nous ce qu'il y a à faire.
Je dis, répéta Ralph d'un ton aigre, qu'il obtienne cette position et sa fortune est faite. S'il n'en veut pas, qu'il se tienne d'affaire tout seul. Sans amis, sans argent, sans recommandations, sans connaissance de quoi que ce soit, qu'il trouve un emploi honnête à Londres qui lui paie seulement ses souliers et je lui donne 25 000 francs. C'est-à-dire, en se reprenant, je les lui donnerai si je les avais.
« Pauvre garçon, » dit la jeune demoiselle. « Oh, mon oncle, faut-il si tôt nous séparer ?»
« Ne fatiguez donc pas votre oncle de vos objections, au moment où il n'a pas d'autre pensée que votre bien, ma fille, » dit Madame Nickleby.
« Nicolas, mon cher, n'avez-vous rien à dire ?»«
Si, mère, » dit Nicolas, qui était resté jusque-là silencieux et pensif. « Si je suis assez heureux, monsieur, pour être nommé à cet emploi dont je ne suis pas sûre de bien remplir toutes les conditions, que deviendront ma mère et ma sœur après mon départ?
Dans ce cas, monsieur, mais seulement dans ce cas, je me charge de pourvoir à leurs besoins en les plaçant dans une sphère d'existence indépendante. Ce sera mon premier soin. Elles ne resteront pas 8 jours après votre départ dans la situation où elles sont. C'est mon affaire.
« Alors, » dit Nicolas, s'avançant gaiement pour serrer la main de son oncle, « je suis prêt à faire tout ce que vous voudrez. Essayons tout de suite mon sort chez M. Squeers. Mais s'il allait me refuser... »«
Il ne vous refusera pas, » dit Ralph. « Il serait bien aise de vous prendre à ma recommandation. Rendez-vous utile dans sa maison, et vous réussirez en peu de temps à devenir son associé. Tenez, songez un peu. »
« Mon Dieu, s'il venait à mourir, eh bien, voilà votre fortune faite. »«
Oh, bien sûr, je comprends, » dit le pauvre Nicolas, l'esprit charmé de 1000 visions que son ardeur et son inexpérience évoquaient dans son cerveau. « Ou bien, je suppose que quelque gentilhomme, élevé dans le hall de Dotboys, alla prendre du goût pour moi et me faire nommer par son père en qualité de précepteur attaché à ses voyages quand il quittera l'établissement. » Et puis, quand revenant du continent, il me procurera quelques jolies places. Hein, mon oncle ?
Ah, c'est sûr,
dit Ralph avec un rire moqueur.
Et qui sait, en venant me voir quand je serai établi, car il n'y manquerait pas naturellement, il ne s'éprendra de Catherine, qui tiendra son ménage et ne l'épousera pas, hein, mon oncle ? Qui sait ?
Comment donc ? Mais assurément.
Et Ralph ricanait plus fort.
Oh, que nous serions heureux ! S'écria Nicolas dans son enthousiasme. La douleur du départ ne serait rien au prix de la joie du retour. Catherine sera une femme superbe, et moi, si fière de l'entendre dire, et ma mère, si heureuse de se retrouver avec nous. Et tout ce triste passé sera si doucement effacé, et...
Et Nicolas, succombant sous l'image d'un avenir trop beau pour qu'il pût en supporter l'idée, commença un sourire qui finit par un torrent de larmes. Cette bonne et simple famille, née et nourrie dans la solitude, tout à fait étrangère à ce qu'on appelle le monde, c'est-à-dire ce tas de coquins qu'on est convenu, dans un certain argot, d'appeler le monde, fondait en larmes. Ils mêlaient leurs pleurs en pensant à leur séparation prochaine, puis, quand ce premier éclat de sensibilité fut apaisé, ils se livrèrent à tous les transports d'une joie inespérée en voyant s'ouvrir devant eux cet horizon brillant. Mais M. Ralph Nickleby s'empressa de leur rappeler qu'il ne fallait pas perdre de temps, de peur qu'un candidat plus heureux n'allât couper l'herbe sous le pied à Nicolas et renverser du même coup tous leurs châteaux en Espagne. Cette réflexion opportune coupa court à la conversation. Nicolas, ayant copié avec exactitude l'adresse de M. Squeers, l'oncle et le neveu sortirent ensemble à la recherche de ce parfait gentleman. Nicolas, fermement convaincu qu'il avait fait à son parent une grande injustice lorsqu'il avait pris en empathie à la première vue, et Madame Nickleby, faisant de son mieux catéchiser sa fille, et lui persuader que certainement M. Ralph valait beaucoup mieux qu'il ne paraissait, Madame Nickleby, lui faisant observer avec respect qu'il n'avait pas de peine à cela. À dire vrai, l'opinion de la bonne dame avait été singulièrement modifiée par l'adresse de M. Nickleby à flatter son amour-propre. Il avait eu l'air de s'en rapporter à sa haute intelligence. Il avait fait un compliment indirect à la supériorité de son mérite. On est toujours flatté de ces sortes de choses. Et quoiqu'elle eût tendrement aimé son mari et fût encore folle de tendresse pour ses enfants, il avait su faire vibrer si à propos une de ces fibres discordantes du cœur humain dont il ne connaissait pas les bonnes qualités, mais dont nul ne connaissait mieux les faiblesses, qu'elle avait fini par se considérer sérieusement, d'après lui, comme une aimable et douloureuse victime de l'imprudence de feu son époux.